Bienvenue dans notre étude du livre de Shemot pour cette première journée sans masque à l'extérieur. Et ça faisait plaisir de pouvoir éternuer comme ça en plein air. Hein, bien sûr. Enfin. Bekitsour, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est au chapitre 20, au verset Tetvav. Chapitre Kaf, verset Tetvav. En d'autres termes, c'est le chevi de la paracha de Yitro, la septième montée. Dans certains chumashim à couverture blanche, c'est la page 91. Et on est après les dix commandements. Ça y est. Bah, ça y est. On a fini les dix commandements, on a bien compris qu'est-ce que ça voulait dire, que ce soit la répartition en 5-5, en 1-3-3-3 ou en 10. C'est-à-dire, donc maintenant, ok. Une fois qu'on a terminé les 10 commandements, il y a quelque chose qu'on n'a pas assez peut-être réfléchi. On a beaucoup, dans le film, parlé de l'avant. C'est-à-dire tous les films qui ont parlé de ça et qui ont mis en scène les 10 commandements, la pyrotechnique de l'avant, on la voit. Mais très souvent, le film s'arrête au moment où Moïse va monter, prendre les tables. Et on ne parle pas vraiment de l'après. Il y a eu un montée crescendo, évidemment. Pour arriver au top du top, c'est le moment du dévoilement. Comment est-ce qu'on redescend? Comment? Quoi?
Pour lequel,
dans le film?
Ne se sont pas intéressés à l'après.
Tu parles dans les films?
Oui, oui.
Ah oui, parce que tu préfères terminer par un climax. Tu ne veux pas terminer par un truc qui est une pente descendante. En termes de cinéma. Mais nous, on est des êtres humains. Et les êtres humains, ils doivent terminer le dévoilement en retombant un petit peu. Et malheureusement, il faut revenir dans ce monde-ci. OK? On a le même schéma dans la tfila. Dans la tfila, il y a toute une préparation au dialogue avec Dieu. Cette préparation, elle commence depuis Modéani jusqu'à Barérou. Je me mets en condition. Birkota Shachar, Psuke des Zimra, tout ça, c'est pour me chauffer. J'arrive à Barérou, je fais Kirat Shema ou Birkotea, je m'attache à la Torah. Kirat Shema, c'est la Torah. Et donc, je vais, pour me préparer à parler, eh bien, je vais me réhabituer au langage de la Torah, de la Névoa, pour m'attacher à la névoie. Et une fois que je suis prêt, j'enchaîne la tefila. C'est le top. La Amida. Et je ne m'arrête pas après la Amida. Après la Amida, Tachanoun, et puis après, il y a encore des psouké des Imra, Ashre ou Valetzion, et ensuite, Pitomaktoret, Alenu Shabeach, la Atlat. Donc, la tefila, c'est également, je monte, j'arrive au top et je redescends doucement. Donc là, on a pareil. On a tout le chapitre 19 et le début du chapitre 20 qui nous ont amené au dévoilement. Et là, maintenant, eh bien, il faut redescendre dans l'étage.
Dans la vie d'un juif aussi, il y a par la tefila. Dans le cheminement personnel, on a toujours des montées et des descentes.
Oui, mais on espère terminer sur une montée, à un moment donné.
Oui, mais il y a
ça. Oui. Alors que là, véritablement, une fois que tu as eu le contact avec Dieu, il faut que tu t'en remettes de ce contact avec Dieu. D'accord?
Oui, dans notre vie de tous les jours.
Oui, pas toujours. Des fois, tu restes en haut. Bah, pourquoi pas?
Moi, je sais pas.
Eh bien, ça va être rattaché. Donc, comment est-ce qu'on va conclure le Mahamad en Sine? Alors, allons-y. Oui?
On a été déçus après?
Non, je n'ai pas dit ça.
C'est un peu comme le lacté. Il faut dire... L'acte amoureux, c'est-à-dire que je suis amoureux, et puis j'atteins un sommet, et à ce moment-là, donc il y a peut-être des difficultés qui apparaissent. Et donc, c'est une vision peut-être.
Non, mais de toute façon, c'est pas une question de critique ou pas. De toute façon, il est évident que la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose d'une dimension énorme. Il faut que, pour revenir à mon identité du quotidien, il faut que j'ai un sas de décompression. Tout simplement. Oui, l'athlète. Alors, de quel sas s'agit-il? Comment ça va se passer dans la Torah? Venez, on regarde. Ah, mais je pense qu'on ne va pas avoir assez tous avec une seule boîte. On va pas avoir assez tous avec une seule boîte. Alors, on peut y aller ? Yala. Vecholam. Perek Kaf. Pasuk. Tetvav. Vecholam. Roim. Et ha kolot. Et ha lapidim. Et kol ha shofar. Et ha har hashem. Vayara'am. Vayanu. Vayamdu. Merachok. Alors ça, les amis, c'est un verset. Non, mais il est dans tous ses aspects compliqué. Non, alors, c'est-à-dire, je vais le dire vite fait, ça, que c'est vrai, comment c'est possible qu'on a vu des colottes, mais ce n'est pas le seul problème du verset. On a le premier problème, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a vu des colottes ? Non, mais Chané, que ce soit avec tes yeux physiques ou que ce soit un machal, la Torah a choisi de me faire passer à moi le message que j'ai vu les colottes. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Et même quand tu me dis ça, tu ne m'as rien dit. Parce que, ok, t'as un chaman, elle a des yeux. C'est-à-dire que soit c'est une vision physique, soit une vision métaphysique. Mais c'est d'air. Mais dans ce cas-là, ou les deux, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que j'ai vu ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire des colottes, que ce soit au niveau physique ou au niveau métaphysique ? Eh bien, Yonatan Ben Uziel, lorsqu'il vient traduire le texte de la Torah en araméen, là, pour le coup, il ne se contente pas de traduire, il va également donner son avis de qu'est-ce qu'on a vu. Et il nous dit, Nathan Ben Uziel, qu'on a tous vu comment la voix sortait du Har Sinaï et se subdivisait et rentrait dans chaque oreille de chacun d'entre nous différemment en fonction de ce qu'on comprenait. C'est-à-dire que on a vu que, en fait, ma compréhension et ta compréhension, elle n'est pas la même.
C'est comme si Hachem parlait personnellement.
Exactement. C'est pas comme si. C'est Hachem qui parle personnellement à chacun d'entre nous.
Donc, on a reçu une Torah différente,
chacun. On a reçu la même Torah, mais on l'a perçue différemment.
C'est normal. Chacun a son secret.
Bien sûr. Son secret, sa tradition, son ambiance générale. Absolument pas. Absolument pas. Ça veut dire quoi, ça, il y a une vérité ? Prenons un exemple purement théorique. Quelqu'un m'a téléphoné, non, quelqu'un m'a envoyé un message aujourd'hui et je lui ai téléphoné. La question était, la personne en question, voilà, on ne va pas dire son nom, on l'appellera Y. Et il m'a demandé s'il pouvait dire la Haftara pour le Shabbat qui allait arriver, Shabbat prochain. Je lui ai dit, pas de problème, mais le problème, c'est quelle haftara tu vas bien vouloir lire ? Parce que Dafka, la semaine prochaine, eh bien, c'est une marloquette entre Ashkenazim et Sfaradim. On ne lit pas la même chose entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Donc, le Y en question est séfarade marocain, de son état. Le problème, c'est que...
Il y a beaucoup de même histoire.
Bekitso. Ça fait du bien d'être content. Bekitso, donc la personne, je lui ai dit, a priori, marocain, il va lire la Haftara séparée. Le problème, c'est que dans notre synagogue, nous avons un grand principe, c'est que quand il y a Marloquet, entre deux Haftarot, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque encore 5, à mon ami. Hein. Mais Kitzo, pour tous ceux qui prennent cet enregistrement en cours, c'est l'euphorie du masque qui est. Bas les masques. Bas les masques, les gens sont un petit peu. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a un principe dans notre synagogue, c'est que lorsqu'il y a Marloquette, on lit la Haftara la plus courte. C'est un principe. Et le problème, c'est que la Haftara la plus courte cette semaine, ce sera la Haftara Ashkenaz. En général, c'est contraire. Mais bon, donc tout ça pour te dire que quoi ? Il y a une seule vérité. Quoi ? Les Ashkenazim, ils ont tort et les Marocains ont raison ? Ou inversement ?
Ce n'est pas
du tout la forme. C'est est-ce que je lis le prophète Amos ou est-ce que je lis le prophète Yechezkel ? C'est bien plus que de la forme. C'est un exemple. Toute la halakha, elle est comme ça. Je ne prépare pas mon thé de la même façon Shabbat chez moi et chez un Nord-Africain. Et si je fais comme lui, ça sera Chilul Shabbat. Si je fais comme moi, ça sera Chilul Shabbat. Donc ça veut dire que tu me dis il y a une seule vérité. Ben non. Shivim Panim, la Torah. Il y a 70 facettes à la façon de comprendre la Torah. Pas 71. C'est-à-dire que c'est la même Torah. Mais la façon de la percevoir est différente. C'est tout.
C'est la même Torah dans le fond. Il y a la vérité absolue. Mais quand même...
Oui, mais la vérité absolue, tu ne la connaîtras jamais. C'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas Dieu. Aux dernières nouvelles.
D'accord, mais il nous parle.
Et donc il nous parle. Est-ce que tu penses que parce qu'il nous parle, ça veut dire que je sais exactement comment il faut faire ce qu'il m'a demandé ? On a vu la preuve la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, que ce n'était pas le cas. Que lorsque Dieu avait dit à Moshe quelles devaient être les directives pour l'inauguration du Mishkan malgré la mort de Nadav et Abihu, eh bien Moshe a compris une certaine façon, Aaron a compris une autre façon, et c'est Aaron qui a eu raison. C'est ça ? Donc ça veut dire que même quand on a la parole directe de Dieu, il y a plusieurs façons de la comprendre, cette parole.
Oui, la colonne vertébrale, etc. Le gros,
la tradition d'Israël. La colonne vertébrale, c'est la tradition juive. Si tu inscris ton avis dans la tradition d'Israël, alors il est légitime, il fait partie des 70. À partir du moment où tu dis « mon avis ne se revendique pas de la tradition juive », c'est mon avis, et puis je m'en fiche que le Rambam, il ait dit autre chose, et ça ne fait pas autorité pour moi, alors cet avis devient illégitime.
Oui. C'est ça ? À partir de quand on ne peut plus émettre d'avis ?
Tu peux toujours émettre des avis, à condition qu'ils s'inscrivent dans la tradition juive.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que si je viens donner un avis qui contredit tous les avis du Talmud et qui n'a personne sur qui s'appuyer, alors il n'est pas légitime. Il peut être légitime en tant que mon avis et ma réflexion, mais ça ne sera pas une façon de comprendre la tradition d'Israël. Par contre, si une majorité d'avis vont dans un sens et qu'il y a un avis qui est minoritaire qui va dans un autre, alors là, c'est bestiaire si je m'appuie sur cet avis-là. Ça ne veut pas dire que j'aurai raison à le pied à l'arabe, mais mon avis sera légitime dans la transmission de la tradition d'Israël. C'est la grande différence qu'on a quand on a une marloquette entre, par exemple, un rabbin du monde sioniste religieux et un rabbin du monde orthodoxe charedi, et qui se disputerait sur le Hallel à Yom HaAtzmaout. Quelle que soit la dispute, les deux avis sont légitimes, parce que les deux puisent leurs arguments dans la tradition rabbinique, dans toutes les générations. Après, il faudra voir qui c'est qui a le plus d'arguments. Mais lorsque tu vas avoir un débat avec un rabbin du mouvement libéral réformé, qui... Bah, des fois, va s'appuyer sur des rabbins dans cette génération. Des fois, ça l'arrange pas, alors non. Et puis, ce n'est pas, ça n'impose rien. Il n'y a pas d'autorité au Talmud ou au Rishonim, ainsi de suite. Alors, cet avis devient illégitime. Il n'est plus dans la transmission de la tradition. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, cet avis. Il peut être très intelligent et très argumenté. Mais il n'est plus la succession de la tradition juive. OK? Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vecholam, Roim et Akolot. Mais là, on a le deuxième problème. Qu'est-ce que ça veut dire, Rohim ? Pourquoi est-ce que, alors que toute l'histoire nous est racontée au passé, ici, tout d'un coup, on parle au présent. Dans deux secondes, on va nous dire « Atem reitem » au passé, normal. Pourquoi est-ce qu'ici, on nous dit « Becholaam, Rohim » au présent ? Eh bien, explique le Sfat Emet, le rabbi de Gour, il dit la chose suivante, « Zepachut, ki Torah, Zebaové » La Torah, c'est du présent continu.
Donc, on peut voir les voies.
Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si toi, tu t'inscris dans cette tradition-là, tu es aussi celui qui reçoit la Torah maintenant.
C'est-à-dire, je peux voir les colonnes ?
Bah, tu me diras. Si tu les vois, tu nous en parles. Mais tu peux, toi aussi, maintenant, recevoir la Torah. C'est une réception en continu. D'accord ? Donc, oui.
C'est ce qui fait qu'elle est vivante.
Exactement. וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת הר השם. Donc on a vu les torches, on a vu, donc on a dit כל השופר, ce qui est assez bizarre, ואת כל השופר, mais ça on a compris. Et qu'est-ce que ça veut dire, ואת הר השם? La montagne, on l'a vu comment? Non?
Fumée.
Elle fumait. Ah, elle est fumante dans le sens de la nuit. Ah, d'accord, excuse-moi, autant pour moi. Mais tu as raison. Donc, hein? Oui, non, mais je. Voilà. Je n'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Mais attendez deux secondes. La fumée sur la montagne. Donc, on la voit, la montagne? Ou elle est enrobée d'une espèce de fumée?
Elle
n'a pas de feu.
Non, il n'y avait pas rien enrobé.
On voit des lapidimes. Ce n'est pas la montagne qui est en feu.
Lapidimes, c'est du brouillard.
Il y a des lapidimes, c'est-à-dire des torches. Ce n'est pas la montagne en elle-même qui est en feu. Alors, toi, tu dis, c'est juste un effet d'optique. Il y avait tellement de torches qui étaient là que ça a créé de la fumée et que... Alors, franchement...
Non,
deux secondes. C'est khachouv. Non. Donc, pourtant, la Torah, elle va nous dire que c'est khachouv.
Parce qu'on est dans le brouillard.
On est dans le brouillard. Exactement.
Cette fumée-là,
oui.
Elle est différente de la nuée.
Ah, complètement.
Oui,
bien sûr. On parle pas de nuée ici.
C'est pas
un âne. Là, on parle pas de l'âne. Non, pas du tout. Mais, effectivement, on est dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à distinguer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde la réalité et qu'on n'arrive pas à la distinguer? Est-ce que ça nous est déjà arrivé? Est-ce que ça peut arriver que la réalité nous paraisse floutée? Ça peut être au réveil le matin. Ça peut être si je vais m'évanouir. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est proche de perdre conscience. Ceux qui vont raconter des expériences de mort imminente, comme on dit en français, c'est ça, mort imminente, ouais, c'est ça. Ils vont te dire aussi comme ça qu'ils ont d'abord vu un espèce de floutage complet, machin, et après une lumière. C'est-à-dire qu'on est en train de nous témoigner dans la Torah que Am Israël est en train de vivre une expérience terrible. Il n'arrive plus à se repérer. Ça s'apparente, c'est pas. Ça peut valoir le coup de mourir. Est-ce que les peuples de l'époque, les cultures ambiantes, se disent que mourir, c'est peut-être une bonne chose? Et il faut rappeler que dans les cultures de l'époque, si mourir, c'est ce qui me permet de rencontrer le divin, ça vaut le coup. Je rappelle que c'est également, plus ou moins, un message qui est prononcé par le christianisme. C'est un message morbide qui est prononcé dans certains mouvements musulmans. C'est également le message qui est proposé par le bouddhisme, que finalement, il faut arriver à l'annihilation du corps qui fait écran à notre rencontre avec le Créateur. Et ici, nous avons un chidouche énorme. Am Israël vient de parler à Dieu, enfin, Dieu vient de lui parler, et il n'est pas mort. Donc ça veut dire qu'on n'est plus obligé de mourir pour entendre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, tout d'un coup, nous avons une réaction de recul. Nous dit la Torah, « Vayara'am, vayanou, vayamdou merachok. » C'est-à-dire qu'il y avait les kolot au début, et là on ne nous dit pas qu'on a reculé, avant le Mahamad Arsinaï. Quand la pyrotechnique elle s'est mise en place, on ne nous dit pas qu'on a eu peur et qu'on a reculé. Il y a eu le dévoilement et on a re-entendu après Kolot Velapidim. Et là, on a reculé. Vayanou, Vayamedou, Merachok. Et on a bougé pour se mettre à l'écart, pour se mettre loin. Merachok.
Ah, Merachok. Ah, d'accord.
Ok. Donc, on a bougé pour se tenir loin. D'accord? Eh oui, il n'y a pas de bidette, pas de lunettes.
Voilà. On parle de braquim, mais maintenant, on dit que tu as vu Judim.
Il n'est pas obligé de faire aussi des braquim à la fin.
Donc, il doit bien des lapidines.
C'est difficile pour Dieu d'amener des lapidines?
Pas de politique.
Non, hein.
Ça, pas de politique, on a dit. Il est aux États-Unis, les lapidines. Non, il est rentré, ça y est, non?
Il est rentré.
Nounou.
Je suis pétrifié par ce que je vois, ce que j'entends. Mm-hmm. Je suis transi, je ne bouge pas.
Mais si, il bouge justement.
Attends, je ne bouge pas. Et ensuite, le son s'éloigne. l'image peut-être apparaît peut-être plus claire à ce moment-là. Je vois les fumées là loin. Et donc à ce moment-là, peut-être je réalise que j'ai vécu quelque chose.
Oui, mais là, c'est l'inverse qui est marqué. Mais c'est marqué l'inverse. C'est marqué qu'on a vu et donc on a reculé.
Oui, mais bon, j'ai vu des sons. Donc, bon.
J'ai vu des sons, j'ai entendu plein de choses. Et c'est ça qui m'a fait reculer. C'est pas j'ai reculé en plein, après j'ai pu voir de manière un petit peu plus claire.
Des sons, c'est déjà une situation qui n'est pas naturelle.
Mais bien sûr que non. Mais on voit qu'ils ont reculé après et pas avant. Donc, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir été de nouveau en contact avec cette possibilité du dévoilement qui leur a dit « Hoppa, on prend un pas en arrière. » Et qu'est-ce qui se passe ?« Vayomru el Moshe, daber ata imanu venishma'a ve'al yedaber imanu Elohim pen namut. » Il n'avait pas dit ça. Avant. Ils avaient dit, t'as raison. Et en plus, a fortiori, ils avaient dit le contraire. Ils avaient dit, on veut parler avec Dieu. C'est vrai ? Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui a changé entre avant Mahamad Arsinaï et maintenant ? La seule chose qui a changé, c'est qu'il y a eu Mahamad Arsinaï. Et ça répond, quelque part, je me rappelle de notre petit vicoire de la semaine dernière, ça répond à la question d'où vient le Midrash qui nous dit qu'ils sont morts et qu'ils sont revenus à la vie. Eh bien, avant le Mahamad Arsinaï, on leur dit que Dieu va venir, ils sont très contents, yallah. Là, ils revivent la même situation de Kolod, de Lapidim, de Har Hashem, comme il y a eu juste avant le dévoilement. Donc ils se disent, il va arriver la même chose qui est arrivée il y a 2 minutes. Et là, ils disent à Moshé, non, on veut pas, on veut que ce soit pas parce qu'on n'a pas envie de mourir. Donc ça veut dire qu'ils ont fait cette expérience-là. Ils ont fait cette expérience-là, ils n'ont pas envie de la revivre. Ça va ? Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a un chidouche. C'est que le judaïsme a appris que tu peux être en contact avec Dieu sans mourir. Ça va ? Ça sera dit clairement dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, quand on ramènera les événements du Mahamad Arsinaï, alors Moshe fera état de la réaction de l'Israël. Là, on a une partie du dialogue. Dans Sefer Devarim, on a une autre partie du dialogue où Moshe et Israël discutent, et on dit là-bas que cette fois on a vu que Efchar les Daber, que Dieu il peut parler avec Adam, Vachai, Imken, Lamanamut. C'est-à-dire, puisqu'on a vu maintenant qu'on peut dialoguer avec Dieu sans mourir, alors pourquoi mourir ? Ok ? À l'époque, on pensait que ça valait le coup. Ça vaut le coup de mourir si c'est pour rencontrer Dieu. Mais maintenant qu'on voit qu'on peut rencontrer Dieu sans mourir,
ils sont morts, ils sont revenus, donc pourquoi ils veulent...
Ils veulent pas remourir. Non, c'est pas tous les jours pour Rim. C'est pas tous les jours pour Rim. Peut-être qu'il va pas nous ramener la prochaine fois. On n'en sait rien. C'est comme Rava. Rava. C'est comme Rava. Rava, dans le Talmud de Masoret Megillah, on nous dit que Rava, il a invité un jour Rabbi Zeira pour un Tseoudat pour Rim. Sympa, petite ambiance et tout. Et puis à ce moment-là, Rava, il avait bu un petit coup de trop. Et il s'est levé et il a shrité Rabbi Zeira. Ben, il lui a fait la shrita. Le Talmud dit Kam, ve shrate le Rabbi Zeira. Quick. Mais non, mais il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas. Il a dit après qu'il avait fumé un joint et que donc il n'est pas jugeable. Parce que tu comprends bien qu'il n'y a pas de problème. Non. Il avait d'autres stratagèmes. Quand il a un petit peu décuvé, il a vu Rabbi Zeira par terre, il a dit « Oups, erreur !» Il l'a ressuscité.
Il a fait comment ? Il a collé la
tête ? Eh bien, c'est une très bonne question. Il n'y a pas marqué les détails dans le Talmud. Il l'a ressuscité. Et puis après, il a dit « Bon, hé, on a bien kiffé hein, quand même. Alors l'année prochaine, même jour, même heure ?» Rabbi Zeira, il a dit, je peux pas, j'ai piscine, ça va pas être possible. Voilà, c'est bon, voilà, j'ai pas envie de retenter l'expérience. C'est vrai ? Donc tu dis, il nous a ressuscité, qu'il a dit qu'il va nous ressusciter encore. C'est vrai ? Donc, il y a cette dimension de maintenant, je ne veux plus que ma rencontre avec Dieu m'annihile. Ok ? Donc toi, Moshe, Tu n'es pas à notre niveau, tu es au-dessus, tu arrives à gérer ça. On a admis que tu étais bel et bien celui qui fait le lien et tu es honnête dans ton lien. Pas de problème. Vas-y, toi. Oui ? Au contraire, on m'aurait étonné.
Non, non, ça, c'est quand
Dieu parle à quelqu'un.
Oui.
Pourquoi faut-il qu'il
meure ? C'est une excellente question.
Parce que c'est du jamais vu. Ça n'a jamais existé.
Que quelqu'un meure quand Dieu lui parle.
Quand Dieu parle à quelqu'un, c'est pour lui adresser un message.
Ouais, évidemment. D'ailleurs, d'où est-ce que tu sors ? Tu cites qui, là ? Dis-moi qui tu cites. Tu cites quelqu'un. Non, je sais bien, mais ce que tu dis, que si Dieu il voulait qu'on meure, il ne nous aurait pas parlé. S'il nous a parlé, c'est qu'il ne veut pas qu'on meure. Tu cites quelqu'un. Tu te rappelles qui a dit ça ? Il y a quelqu'un qui a dit ce que tu as dit. C'est la femme de Manoach. La femme de Manoach, dans le livre de... Bah, j'allais le dire. Mais je ne peux pas imaginer... que tu n'aies pas étudié le Tanakh al-Bourriecha, et donc je pense que c'est simplement un oubli de ta part dû à l'horaire tardif de ce cours, bien évidemment. Et donc tu te rappelles, hein ? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ben oui, il faudrait. Livre des juges, nous avons les futurs parents de Samson, de Shimshon. Il y a un monsieur qui s'appelle Manoach et il y a une femme qui s'appelle la femme de Manoach. Ok ? Très beau nom d'ailleurs, femme de Manoach. Et donc, Dieu se dévoile par l'intermédiaire d'un malach à la femme de Manoach et elle raconte ça à son mari. Il ne croit pas trop, il se redévoile à elle, elle court. Peut-être, mais tu vois que pour Manoach, c'est quelque chose de très fort.
Dieu, il a dit, celui, il
peut
pas y avoir quelqu'un qui me voit et qui
vit. Ah, Dieu, il a dit, mais là, on ne te dit pas qu'il a forcément vu Dieu. Oui, mais tu as raison, il y a quand même quelque chose. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même cette dimension que le contact avec Dieu, c'est pas de tout repos. C'est-à-dire, maintenant, la femme de Manoach, elle vient dire, s'il avait voulu nous tuer, il nous aurait tués, il ne nous aurait pas parlé. C'est-à-dire, Mbaya. C'est la logique et c'est comme ça que ça se passe dans le judaïsme. Il n'empêche que lorsque tu as cette énergie énorme qui t'arrive, Dieu te parle, si le cli, il n'est pas adapté, ben, mal à la sorte. Peut-être que le cli va imploser, exploser, ce que tu veux. Si tu prends une ampoule qui n'est pas capable de gérer du 220 volts et tu lui mets du 220 volts, elle va éclater. Au niveau halakhique, le Rambam nous donne dans les Ilchot Nevoa qu'il y a plusieurs degrés de prophétie, évidemment, et qu'en fonction de la capacité de l'homme à recevoir la Nevoa, eh bien, elle va plus ou moins le chambouler. Moshe, tranquille, Dieu lui parle, ça ne lui fait rien, il est là, il répond, normal. Les autres, ils sont dans une espèce de transe incroyable parce qu'ils n'arrivent pas. Daniel, on voit Shaoul, on voit, bien sûr. Et ils n'arrivent pas à gérer. Il y en a d'autres, Birlal, ils tombent dans un profond sommeil pour entendre la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que, effectivement, entendre Dieu, c'est non pas chouette. Ils craignent. En plus, bien sûr.
Parce que l'initiative n'est pas quelque chose que l'homme aurait.
J'entends bien. Mais si ils ont cette réflexion-là, de deux choses l'une. Soit c'est, comme le Midrash a dit, que ça leur est arrivé, et donc ils ont peur que ça réarrive, ou alors, ça veut dire que ils ont cette conscience-là dans les expériences qu'ils ont entendues ou vues dans d'autres cultures. Et il n'est pas impossible de se dire que dans d'autres cultures, lorsque les gens arrivaient à une transe extatique pour arriver en contact avec leur divinité, eh bien certains n'en survivaient pas. C'est très très possible, ce genre de choses. Et donc ils ont peur, dans tous les cas on voit qu'ici ils ont peur et qu'ils disent à Moshe, vas-y toi, on ne veut pas mourir. Donc ça veut dire qu'ils pensent que si ça les touche eux directement, ils mourront. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, mère Moshe là, hein ? Elle tira, oui. Pourquoi ?
Dieu qui, je pense que Dieu, il sait ce que je suis capable de faire.
Oui, mais qui t'a dit que le projet de Dieu, c'était pas justement de me tuer, c'était ça la finalité?
Mais ça n'a jamais existé.
Mais d'accord, mais ça n'a jamais existé non plus que Dieu se révèle à un peuple. Donc c'est une nouveauté dans tous les cas.
Justement, c'est
mon compte de cette révélation. Et a fait, excusez-moi les amis, c'est... Non mais eux, ils ont peur. Ils ont peur de mourir. Ça, tu peux pas l'enlever. Oui, mais là, ils ont pas peur de... Non mais... Mais d'accord, donc moi j'ai envie de les croire. Non, moi j'ai envie de les croire que BMN, ils ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir. Non, mais pourquoi un manque de Emouna ? Qui t'a dit que c'était pas ça le projet ? Non, que peut-être que le projet de Dieu, c'est qu'on meurt tous. Qui te dit ?
Non,
et pourquoi pas? Ah, parce qu'il veut nous emmener en terre d'Israël. Moshé, peut-être Moshé. Il peut tout. Ici, il avait voulu me tuer, il l'aurait fait en Égypte.
Non, pourquoi tu n'aurais pas le projet change? Vous avez fait sortir, vous étiez marché quand même dans le désert pour
Aïs.
Ah, on va tous mourir.
Moi, je pense que Ribono Shelolam n'est pas fan de ce que tu as dit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut allumer et voir l'interrupteur.
Pourquoi lui dire enfermé de l'extérieur?
Non, bah, il y a de la lumière dehors.
Oui,
Je suis bien d'accord. Évidemment que le projet, c'est pas de nous tuer. Bien sûr. Mais tout ce que vous dites ne fait que renforcer l'idée que s'ils connaissent le projet, que si Dieu l'a... Ça veut dire que s'ils ont peur de mourir, c'est que Béhémet, il y a ce danger-là. Et ils l'ont très bien compris. Et c'est pour ça que les paroles du Midrash sont tellement faciles à intégrer en disant, ben voilà, ils sont Béhémet morts au début. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir cette dimension-là. Ils en ont conscience maintenant. Et c'est pour ça qu'ils envoient Moshé servir d'intermédiaire. Tout simplement.
Donc c'est un
échec entre guillemets, cette rencontre. C'est pas un échec. Ils sont pas prêts.
Alors pourquoi j'ai leur coup ?
Ah, là, vous commencez à m'intéresser. Pourquoi Dieu leur parle s'ils sont pas prêts ? Pourquoi Dieu nous donne les premières tables de la loi s'il sait qu'elles vaut d'or au même moment ? Naron, c'est la même question. Eh bien. Oui, c'est vrai, mais comme ils ont vu le film. Pas encore. Hein. Parce que si un jour, quand tu étais en Gaule, et que tu rentrais pour le baccalauréat, et que tu es rentré avec, en épreuve de mathématiques, tu es rentré avec un 9, c'est bien ou c'est pas bien ? Bah, tout dépend, voilà. Sur combien c'est ? Si c'est sur 10, c'est Metsuyan. Si c'est sur 20, c'est pas bien. Donc, mais dis pas non. Si, c'est pas bien.
Et en Israël, c'est catastrophique.
Et en Israël, c'est catastrophique,
Bichal, c'est
sur 100. Oh, ils nous mettent. Lola, Assod, madame, ne pas faire de marloquette stam pour le kiff.
Non, c'est pas une marloquette.
9 sur 20, c'est pas une bonne note, des coudas.
C'est pas une bonne note.
Ben, c'est tout. C'est tout, c'est pas une bonne note. Point.
Non, j'ai eu
9. Mais on s'en fiche d'investissement. Au final, il n'aura pas son bac. C'est pas une bonne note. Mais qui tourne ? On fait des maths, là. Donc, 9 sur 10, c'est très bien. 9 sur 20, c'est pas bien. 9 sur 100, c'est pourri. C'est l'air, pas shoot. Maintenant, comment ? Donc, moi, j'ai eu 9. Comment je sais si c'est bien, pas bien, pourri ? Il me faut une unité de mesure. Il me faut un idéal qui m'a été présenté, vers lequel je tends. Et après, je sais où je me place. Et donc, de la même façon, pour que Am Israël puisse recevoir les deuxièmes tables de la loi, il fallait d'abord voir l'idéal des premières. Après, on a chuté, et donc, les athlètes, on remonte vers là où il faut. Eh bien, il en va de même ici. Le but du jeu, c'est d'arriver à un moment, tel qu'il est mentionné dans le livre de Yoël, que Dieu va parler à tout le monde. Ça y est, ça va arriver. Maintenant, quand il a pour la première fois parlé à tout le monde, on n'était pas prêt, on n'était pas au niveau. Et donc, on a dit, ah non, vas-y toi. Le fait qu'on n'était pas prêt, qu'on n'a pas supporté, qu'on a dit, vas-y toi, va maintenant nous permettre de passer 3000 ans pour nous préparer à arriver à la prophétie de Yoël, ou on sera prêt, et où Dieu pourra nous parler. C'est-à-dire ?
C'est la même chose pour Beth Amigdash, dans l'histoire de... qui lui appartenait au 8e jour.
Nahon. Dès que le Beth Amigdash, on le reconstruira dans le 8e jour, alors là, il n'y aura pas de problème.
Une petite question.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a que les Hébreux au pied de la montagne qui ont subi cette révélation, ou il y avait d'autres régions du monde qui étaient peuplées et qui ont aussi subi cette révélation ?
Alors, il y a d'autres régions du monde qui sont peuplées. Le monde, il est peuplé. Il n'y a pas que des juifs, il n'y a pas que des êtres humains au Sinaï. Mais aucune autre nation n'a eu cette révélation d'Akadosh Baruch Hu à la nation. Par contre, le monde entier a été impacté par le Mahamad au Sinaï. Ok, mais il n'a pas reçu la révélation. Non, mais c'est par Zoom. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis leur caméra.
C'était le jour de
feu. Ben voilà. Vayomer Moshe el Ha'am. Donc réponse de Moshe. Al tiraou. N'ayez pas peur. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Mais non, Dieu, il ne veut pas vous tuer. Al tiraou. Qu'il est va'avour nasot etrem ba Elohim. Mais elle est nasot etrem. Pas du tout. Eh oui. Non, c'est pas éprouvé. C'est nous élever. Tel un nes. Les nasot, ça veut dire nous mettre sur un nes. Nes, c'est un bâton élevé. Donc ici, Dieu veut vous élever. C'est pour ça qu'il vous parle. Dieu veut vous élever. Bah, avour nasot et trem, bah, Elohim. Bah, avour tiye yirato alpenechem, le bilti techetaou. Il veut qu'il y ait une emprise complète de lui sur vous, pour que vous ne fautiez pas. En fait, il veut que vous soyez en permanence en contact avec lui. Ok ? Vayamod ha'am merachok, ou Moshe nigash el ha'arafel, asher sham ha'elohim. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, certes, Moshe leur a dit n'ayez pas peur, mais il a accepté l'idée que c'est à lui d'y aller. C'est-à-dire, Am Israël, Merachok, et Moshe va remplir son rôle. Et à ce moment-là, eh ben, on a la suite du dévoilement. Nous, on pensait que ça s'arrêtait au Aseret HaDibrot. Ben non, ça continue. Va Yomer Hashem El Moshe. Qu'est-ce que là, maintenant, Dieu va nous dire? Va Yomer Hashem El Moshe. Kotomar El Bene Israël. Atem Reitem. Donc la première chose que Moshe doit nous transmettre, c'est que Dieu nous a parlé depuis où ? Depuis Shamaïm.
Depuis Shamaïm.
Depuis
la montagne.
C'est où ?
Shamaïm.
Ouais. C'est quoi, c'est le bleu ?
Non.
Zé Fosé.
C'est
quoi, c'est la lune ?
Bien au-delà,
j'ai dit. Au-delà du bleu, c'est la lune.
C'est là où les contraires.
Au-delà du cosmos.
Ah, au-delà du cosmos. C'est dans la galaxie d'Andromède.
On n'avait pas dit que Shamaïm, c'était l'union des contraires.
Donc vous avez compris que quand on nous dit Kimina Shamaïm, Dibarti Imachem, ça fait référence à quel Shamaïm ? Non. Oui et non, mais surtout à un Shamaïm qu'on a vu il y a très longtemps, mais qu'on a arrêté de voir. Eh oui, Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaret. Et depuis ce premier verset de la Torah, on ne parle plus de Shamaim. Après, on continue en nous disant Haaret, Saïta, Tohu, Bavohu. C'est-à-dire que le Shamaim de Bereshit, c'est de là-bas que je vous ai parlé. Donc, de cette fameuse unité des valeurs. Kimina Shamaim dibarti imachem. Ok ? Atem reitem kimina Shamaim dibarti imachem. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? S'il y a unité des valeurs, ah ben, s'il y a unité des valeurs, alors lota asun iti Eloé kesef ve Eloé zahav lota asu lachem. Ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lota asun iti Eloé kesef, nous dit Rashi, ba leazir ala kruvim. Ça vient nous prévenir que les chérubins, on n'a pas le droit de les faire en argent. Parce que si tu les fais en argent, ça s'appelle de l'idolâtrie. Hein ? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Ve'elohe zahav lo ta'asu lachem. Rashi, Ça veut dire que les Kruvim, tu n'as pas le droit de les faire dans les synagogues. Il faut les faire que au Beth Amikdash. Donc, Eloi Kesef, Lota Asouli. Dieu dit. Non, attends, deux secondes. Il te dit, les Kruvim, il ne faut pas les faire avec moi, en argent. Et les Kruvim en or, qu'il faut faire, il ne faut pas que tu les mettes dans les synagogues. De là, on apprend quelque chose de très fondamental. Pardon ?
Les synagogues n'existent pas à ce moment-là encore.
Donc, Rachid parle avec la langage de son temps. Ça veut dire que tu ne peux pas faire des chérubins en or à l'extérieur du Beth Amikdash. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les chérubins, ça s'appelle définition des Kruvim, Elohe Zahav. La définition des chérubins, ce sont des Elohe Zahav. Hein, ça fait drôle, hein? D'ailleurs, Eloé Kesef, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un Eloé Kesef? Oui, une divinité d'argent. Quelqu'un a fait? Pardon? Ouais, non, je parle dans le peuple juif. Bah oui, eh oui. Un livre intéressant, hein, ce livre de Shoftim, finalement. La statue de Micha. Pesel Micha, c'est ton argent. C'est-à-dire que nous disent Razal, où c'était d'ailleurs Pesel Micha, il était où la maison? C'était où? C'était où la maison de Micha? Là où il a mis sa statue? Et où il s'en a fait un espèce de mikdash alternatif? Hein? Non. Non, là-bas, c'est le Shoftim. Ça se passe chez nous. Tu as raison de dire que l'histoire a commencé en Égypte.
Non,
pas en Égypte. Moi, je te dis. Okay. L'histoire a commencé en Égypte. C'est-à-dire que toute l'histoire qu'on nous raconte, qu'il a volé de l'argent à sa mère, et qu'ensuite il a eu de la maspoune et qu'il lui a rendu, et qu'elle lui a dit, mais fais quelque chose avec cet argent, et qu'il en a fait une statue pour Dieu, c'était en Égypte. C'est la seule explication possible. Pourquoi ? Parce que c'est un tzadik, le mec. Il a fait tchouba. Non seulement il rend à sa mère, et ensuite il fait un truc pour Dieu. Et la mère lui le bénit au nom de Dieu. Donc si ça s'est passé après les 10 commandements, c'est un problème parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Donc s'il fait une statue pour Dieu et il pense bien faire, c'est que c'est fondamentalement avant qu'il ait reçu l'Ota Asel et Chapesel Vechol Temuna. Et donc il l'a emporté avec lui après, dans ses bagages. Et quand il a reçu les 10 commandements, pourquoi il ne l'a pas cassé ? Parce qu'il n'a pas le droit d'après la halakha, c'est Tashmishek Dusha. Il l'a fait pour Dieu, il ne l'a pas fait pour quelqu'un d'autre. Eh bien, il a vécu juste avant la sortie d'Égypte.
Et il était encore en vie.
Combien de temps ça dure le livre de Yoshua? 14 ans. Ah, ça veut dire que Pesel Micha, ça se place tôt dans le livre de Shoftim, bien qu'il soit marqué à la fin du livre. Le livre de Shoftim, il n'est pas du tout chronologique.
Il y a des gens qui sont sortis d'Égypte qui ont vécu...
Oui, tous les gens qui avaient moins de 20 ans. Ça a répondu à ta question ? Ben voilà. Ça a l'air ?
Alors c'était où ?
C'était juste... Non, mais putain ! Après, la tribu de Dan, elle va passer par Pesel Micha. Elle va prendre la Petzel, les Trafim, elle va prendre également le Kohen, qui en fait est Lévi, mais qui sert de Kohen là-bas, et ils vont l'amener avec eux. Ce Kohen n'est autre que Yehonatan ben Gershon ben Moshe, le petit-fils de Moshe, et ils vont l'emmener là-bas. Maintenant, où ça se passe? Juste à côté de Shiloh. Donc ça veut dire que Shiloh, qui est l'endroit du Mishkan, et Beth Micha sont juste à côté. Chazal nous disent, la fumée des corbanotes de Shiloh et la fumée des corbanotes de Beth Micha montaient et se rejoignaient dans les cieux. C'est pas évident, hein, cette histoire de Micha. Mais dans tous les cas, ici, la Torah nous dit, vous faites pas. Mais pourquoi est-ce que la Torah elle a besoin de me dire ça maintenant? Dit le Midrash, au moment où Dieu leur a dit, Eloi Kesef, l'Ota Asuniti, Eloi Kesef, Eloi Zav, l'Ota Asulachem, Am Israël a pensé faire le veau d'or. Ah oui, évidemment. Imagine, tu as des enfants, ils sont tranquilles, pépères, en train de lire un livre. Tu leur dis, les enfants, oui, surtout personne ne touche au gâteau qui vient de sortir du four. ne savaient même pas qu'il y avait un gâteau. Maintenant que tu leur as dit ça, après, à quoi ils pensent ? Au gâteau. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a le dévoilement, alors on a besoin de quelque chose qui reçoive le dévoilement ici. Ça va devenir le veau d'or, ça va devenir les Kruvim, mais on comprend que si maintenant Dieu se dévoile Baolam Hazeh, il faut un kli pour recevoir ça. Un ustensile pour recevoir ce dévoilement.
Pourquoi c'est important que le Kruvim ne soit pas en argent ?
Ah.
Et qu'il soit en or.
Pourquoi est-ce que c'est important que les Kruvim ne soient pas en argent ? Et pourquoi est-ce que c'est important que tu n'en fasses pas dans ta synagogue ? Alors d'abord, on va répondre à la deuxième question que tu n'as pas posée. Pourquoi est-ce que c'est important que ce ne soit pas dans ta synagogue ou alors du moins à l'extérieur du Beth Amikdash ? Parce que c'est Dieu qui détermine comment est-ce que tu te rattaches à lui. Et donc, il y a un endroit qu'il a choisi et donc c'est par là-bas que ça passe. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas en argent ? Alors, je pourrais te dire que Alpia Kabbalah, Kesef Zemidata Chesed, alors que Zahav Zemidata Din. Et que Akadosh Baruch Hu rotze litgalot derech midat hadin. Mais d'un autre côté, je pourrais simplement te dire ce que la Gemara nous dit. La Kabbalah, c'est la Kabbalah. Avala Nigle nous dit parce que en aniyut bimkom ashirut. Et que l'argent, c'est moins luxe, moins noble que l'or. Hein, c'est, tu veux créer un ustensile pour le réceptacle du dévoilement divin. Tu vas faire au top. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait en diamant ? Parce qu'ils n'avaient absolument pas les lasers qui permettent de travailler le diamant. C'est ça ? Ok ?
Ça
donc,
s'oxyde, oui. L'argent.
Ça s'oxyde. Donc c'est encore moins bien que.
Ça rouille.
Non, pas c'est donc, ça s'oxyde. C'est le fer.
Oui.
Ah oui, ça s'oxyde.
Hein. Donc c'est moins bien que l'or.
Oui, bien sûr.
Misbach Adamata Aseli. וזברת עליו את עולותיך ואת שלמך ואת צונך ואת בקריך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. La première fois que Dieu nous demande de faire un misbéach, et le misbéach, l'autel, est fait en quoi? Ah ben non. Adama. Misbach Adama. C'est un misbéach en terre. Non, c'est... Non, pourquoi est-ce que vous parlez de pierre ? Parce qu'il y a un autre verset qui nous dit Misbach Avanim Taaseli. C'est un problème. Alors comment on fait ? Il y a marqué, c'est le verset d'après. Vei Misbach Avanim Taaseli, lo tivne eten gazit, ki charbecha enafta alea vetechalelea. Donc, si tu me fais un misbach en pierre, il ne faut pas que cette pierre soit taillée. Parce que pour tailler les pierres, il faut un burin, il faut de l'acier, et c'est le matériau qui enlève la vie. Alors que le misbéach est censé être l'endroit dans lequel tu vas te connecter à la vie. Donc ça veut dire que le misbéach, il est en pierre ou il est en terre ?
Il est en pierre,
en fait. Il y en a deux.
Ouais,
vous avez raconté que quand il a fait le musée...
C'est-à-dire qu'il peut être soit en terre, soit en pierre. Le Machon Amigdash, quand ils ont reconstruit le misbéach, ils l'ont fait en briques, donc en terre, creux et rempli de pierres.
En plus des pierres, ils les ont manipulées de façon très...
Ben, c'est des pierres qui viennent de la mer morte, qui n'ont pas été touchées par la main de l'homme. Et donc, les équipes de Machon Amigdash, quand elles sont parties aller chercher les pierres, eh bien, toutes les pierres étaient enveloppées directement depuis l'eau dans des grands sacs pour ne pas qu'on les abîme et qu'on les touche et quoi que ce soit.
Ça,
okay,
ça
peut
pas trouver un chamir qui...
Eh ben non, ils n'ont pas trouvé un chamir. Ils n'ont pas trouvé. Donc... ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. ולא תעלה במעלות על מזבחי. Pourquoi? Parce que si tu fais pas d'escalier quand tu vas au מזבח, c'est une rampe. Pourquoi il faut pas faire d'escalier? Parce que sinon, ça va découvrir. T'es pas plus que tes mollets, puisque n'oublie pas qu'ils sont en jupette à l'époque. Donc, ça va découvrir des parties de ton corps qu'on veut pas que tu découvres. Ou des robes. Hein. Longues, pas longues, longues jamais. Et quand tu as une robe et que tu montes l'escalier, eh ben, ça peut découvrir ton corps. Donc, on dit, tu fais pas d'escalier, ça sera une rampe. Maintenant, si vous avez fait attention, on a ici, dans la fin du dévoilement, les trois axes qui sont les lignes rouges du judaïsme. Quand on nous dit Elohe Kesel, Lota Suniti, Elohe Kesel, Velozav, Lota Sulachem, ça fait référence à Avodah Zara. Quand on te dit מזבח עבודה תעשה לי וזבחת עליו את אבותיך ואת שלמך את צונך ואת בקריך בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובראתיך ומזבח עבדים תעשה לי לא תבנה את הנגזית כי חרבך ענפת עליה ותחל אליה זה קונטר שפיכות דמים למרת וקונטר תודי ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו זה קונטר גילוי הרעיות דוקוני איסי דן לתרוא ליני רוז' qui sont les kavim adumim du judaïsme, le meurtre, l'idolâtrie, enfin, l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. C'est ainsi que Dieu termine son dévoilement. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression, puisque la tradition juive m'a coupé et m'a dit ça c'est la fin de la paracha. Et puis direct on enchaîne sur Ve'ele Amishpatim. Voici et voici sera les lois. Et tout de suite, nos sages vont nous dire. Quand il y a marqué « Ve'ele », ça veut dire que ça se colle, ça suit à ce qui a été dit avant. Et donc, on te dit « Ma'ele mi-Sinai, af'ele mi-Sinai ». De la même façon que les 10 commandements ont été donnés au mont Sinai par Dieu, eh bien, les mishpatim qui vont arriver maintenant sont donnés également par Dieu. Et le problème, c'est que il n'y avait aucune raison de me dire ça. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu marqué « Ve'ele ha-mishpatim », mais il y aurait eu marqué juste « Iné ha-mishpatim », j'aurais pas eu de raison de penser que ça a été dit à un autre moment. On est dans la suite de l'histoire, donc il n'y a pas de raison de penser que ça vient pas du même endroit. Donc pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me le préciser? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Zagro 2. Ils ont besoin.